bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie consacrée à la CSRD et aux ESRS pour le secteur financier. Nous avions en première partie ce matin abordé ce thème d'une manière transversale, tout secteur confondu, et là maintenant nous allons aborder les spécificités du secteur financier. Donc, l'objectif de ce module, c'est de vous donner un certain nombre d'éclairages sur des questions que vous vous posez et qui sont spécifiques à ce secteur. Ces éclairages restent aujourd'hui à confirmer dans un contexte réglementaire qui devrait être stabilisé grâce à la transposition de la CSRD dans la loi française. Alors, seront à mes côtés Anna Maslova, associée PwC, et Valérie Ries et Zineb Elmahani, qui sont directrices PwC et toutes trois spécialisées sur les sujets de reporting de durabilité dans le secteur financier. Alors, à l'agenda de ce module, déjà on va commencer par faire un petit rappel de la réglementation en vigueur. On fera un point sur le périmètre des entreprises qui sont visées, ainsi que le calendrier. Et puis, on regardera les enjeux et des pistes de réflexion sur un certain nombre de thématiques en faisant un focus en particulier sur les liens qu'il peut y avoir entre la SFDR et la CSRD, la question des informations à fournir au titre des émissions de CO2 et un certain nombre d'autres sujets. Et puis, on terminera ce module par un petit benchmark sur ce que l'on observe déjà à ce stade. Voilà pour l'agenda. Donc, je vais passer maintenant la parole à Valérie Ries avec une première question pour nous rappeler quel est le champ d'application attendu de la CSRD pour le secteur FS et l'ensemble du dispositif normatif applicable au secteur financier.
Bonjour à tous. Avant de se projeter sur ce qui nous attend demain avec la CSRD, il nous a paru nécessaire de faire un petit retour en arrière et pour vous présenter les spécificités de ce secteur. Vous le voyez sur le slide qui est projeté, c'est un secteur qui a été marqué ces dernières années par une accumulation et un foisonnement de réglementations complexes en matière de finances durables, avec en plus de la DPEF et de la taxonomie commune avec les entreprises non financières, également des exigences à respecter au titre du rapport article 29 de la loi énergie-climat de 2019 et du règlement disclosure européen SFDR qui est revenu renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent des produits financiers, donc avec des informations à publier au titre des processus de décision d'investissement, et aux acteurs qui prodiguent des conseils sur ces produits et donc avec des informations à publier relatives aux produits, en distinguant les produits qui promeuvent des caractères environnementaux et sociaux, les fameux dits produits article 8, et les produits qui ont un objectif d'investissement durable, les produits article 9. Ça a été évoqué dans la première partie de ce matin, donc nous attendons l'avant-projet du texte de la transposition en droit français, qui devrait être rapidement échangé avec les différentes parties prenantes. Et ce qu'on va vous présenter donc, dans cette partie, c'est notre compréhension de la lecture de la directive et également compléter des éclairages récents de la Direction générale du Trésor qui ont été réalisés lors d'une conférence de place publique récemment et qui a également été évoquée ce matin. Premier point. Tout comme pour le secteur financier, donc nous allons avoir un rattrapage avec de nombreuses entités qui étaient hors champ d'application de ces réglementations antérieures, y compris celles spécifiques au secteur financier, pour une première raison, une raison de taille. On vous l'a dit ce matin, on vous l'a remis sur ce slide, la CSRD sera applicable dès lors que deux des trois critères seront respectés, 500 salariés, total bilan supérieur à 20 millions d'euros, total chiffre d'affaires supérieur à 40 millions. Avec les réglementations antérieures de la DPEF et de la taxonomie, on avait le seuil de 500 salariés qui était un premier filtre. Avec la CSRD, deux des trois critères vont être très vite atteints dans le secteur financier puisque 20 millions de bilan et 40 millions de chiffre d'affaires sont des seuils très bas dans ce secteur. Deuxième raison pour laquelle de nombreuses entités vont être rattrapées par cette nouvelle réglementation, pour des raisons de structure juridique. On peut noter à ce titre la FAQ de la Commission européenne de l'année dernière qui avait permis de clarifier que pour la taxonomie, cette réglementation ne s'applique qu'aux entreprises qui relèvent directement de la NFRD et non aux entreprises visées par les textes de transposition dans les différentes juridictions, ce qui nous avait permis de clarifier qu'un certain nombre d'organismes qui ne sont pas sur forme commerciale sont exonérés aujourd'hui de la réglementation taxonomie. Avec la CSRD de demain, cette logique de forme juridique va disparaître et donc on va avoir de nombreuses entités qui étaient exclues et qui vont être désormais concernées avec donc un certain nombre d'entités avec un degré de maturité et une préparation très hétérogène, notamment pour les acteurs qui, entre ceux qui publiaient une DPF sur base obligatoire ou volontaire et les autres qui n'en publiaient pas. On va revenir plus en détail tout à l'heure sur la déclinaison pratique de ces chacun secteur par, en fonction des typologies d'entités pour la banque, l'asset management et le secteur de l'assurance. Mais avant de rentrer dans ce détail, on voulait aussi vous faire un point sur un autre volet important quand on parle du champ d'application, les mécanismes d'exemption possibles au sein des groupes. Alors, on vous a repris sur ce slide, vous savez, avec la DPF, on avait des mécanismes de possibilité d'exemption pour les filiales contrôlées qui sont intégrées dans les comptes consolidés des groupes, si la mère publie une DPF consolidée. On va avoir un peu ce même type de mécanisme avec la CSRD, avec des possibilités d'exemption qu'on vous a repris sur le slide, à savoir si l'entité et ses filiales sont intégrées dans le rapport de durabilité de la maison mère, elle pourrait être exemptée à son propre niveau sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Bien évidemment, ces activités doivent être intégrées dans le rapport de durabilité de la maison mère. Il faut que le rapport de durabilité de la maison mère respecte l'intégralité des normes ESRS qui vous ont été présentées déjà dans la première partie. Et un point d'attention sur lequel on attire votre attention dès à présent, en revanche, cette exemption n'est pas possible si l'entité est elle-même large, c'est-à-dire si elle a plus de 500 salariés, et si elle est elle-même cotée. Si je reviens maintenant, donc là c'est le panorama du champ d'application, sur les dates de première application. Donc, on vous a évoqué dans la première partie tout à l'heure, qu'il existe, si on peut passer sur le slide suivant. Un dispositif d'entrée en application progressif pour les premiers entrants avec, donc si on peut revenir deux slides en avant s'il vous plaît, un rapport de durabilité complet à produire en 2025 sur la base des données de 2024 et pour les new joiners, donc les nouveaux entrants, un an de plus pour se préparer avec un rapport à produire en 2026 sur les données de 2025. Dans l'attente du texte de transposition définitif, on doit rester prudent sur cette interprétation de différenciation entre les premiers entrants et nouveaux entrants. Il est clair que le seuil de 500 salariés va être déterminant. En revanche, on a pu souligner des erreurs de traduction dans les différentes versions de la directive, dans les différentes langues, ce qui nous amène aujourd'hui à certaines interrogations. Si je prends le secteur de l'assurance, par exemple, alors que la version anglaise fait référence aux EIP assurance renvoyant aux directives vie et non-vie, la version française, elle vise uniquement les EIP cotés sur un marché réglementé européen. Ce que nous avons compris, c'est que la transposition en droit français devrait s'aligner avec la version anglaise et donc, cette notion de marché réglementé sur un marché européen ne devrait pas rentrer en ligne de compte pour délimiter les premiers entrants des new joiners. Autre point donc, du secteur financier, c'est un secteur qui est marqué par la nombreuse diversité des entités qui concernent ces différents secteurs. Et je vous propose donc, pour ce faire, de décliner dès à présent comment ça va se traduire concrètement dans les différents secteurs, la banque, l'asset management et l'assurance, en fonction des différentes typologies. Et je vais passer tout de suite la parole à Zineb pour vous présenter dans un premier temps la déclinaison pour le secteur bancaire.
Bonjour à tous. Donc, pour le secteur bancaire, le slide qui s'affiche à l'écran présente le détail du champ d'application des principales réglementations existantes en fonction de l'activité des entités du secteur et bien entendu sous réserve que celles-ci remplissent bien les conditions que vient de rappeler Valérie. Donc, on rappelle que cette analyse est sous réserve de confirmation par l'avant-projet de transposition qui est attendu sous peu et qui devrait permettre de clarifier certains points de façon générale, mais aussi sur du coup certaines entités particulières, comme notamment les SPV. Donc en France, nous avons distingué 5 grandes familles d'activités que nous avons placées sous l'ombrelle du secteur bancaire. Pour cette liste, nous avons fait le parallèle avec les principales activités qui sont sous supervision de la CPR. Donc, on distingue les établissements de crédit avec le détail qu'on a mis entre parenthèses dans la ligne, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les établissements de paiement et prestataires de services d'information sur les comptes et enfin les compagnies financières, holding et holding mixtes. Donc, je vais commencer par la dernière colonne, qui est la colonne sur la CSRD. Donc, c'est la dernière colonne de droite. Le texte de cette directive précise de façon explicite que le champ d'application de la publication des informations extra-financières a été étendu à des formes juridiques d'entités du secteur bancaire qui n'étaient pas visées par la NFRD. Donc, comme vient de le rappeler Valérie, elle s'appliquait donc, la NFRD ne s'appliquait donc qu'aux sociétés commerciales exclusivement. Alors, afin d'harmoniser les obligations en matière de publication, le champ de la CSRD a été étendu à l'ensemble des formes juridiques des entités bancaires, y compris donc les entités qui ne sont pas des sociétés commerciales. Je prends l'exemple d'un établissement bancaire qui est une société coopérative. Cette évolution ressort de façon assez évidente dans le tableau lorsqu'on compare les deux dernières colonnes de droite, donc la colonne taxonomie now ou taxonomie telle qu'elle s'applique aujourd'hui, et qui est calqué parfaitement sur les dispositions de la NFRD, et la dernière colonne de droite, qui est le champ d'application de la CSRD, qui d'ailleurs est le même champ d'application qui s'appliquera demain à la taxonomie au moment où la CSRD entrera en vigueur. Donc ainsi, seuls les établissements de crédit sous forme de sociétés commerciales et les sociétés commerciales cotées pour les autres activités sont dans le scope de la NFRD, et ainsi de la taxonomie aujourd'hui. Avec l'application de la CSRD, toutes les entités listées dans le tableau seront concernées si elles dépassent les seuils ou bien entendu si l'entité a des actions ou de la dette cotée, là encore comme l'a rappelé Valérie il y a quelques instants. Donc, vous l'aurez remarqué, si vous comparez avec la première colonne du tableau qui concerne l'application de la DPEF, la transposition française a été bien au-delà des dispositions de la directive NFRD. On parle de surtransposition. C'est d'ailleurs pour cette raison que le champ d'application de la DPEF est plus large que celui de la taxonomie aujourd'hui. Donc, la DPEF va s'appliquer à toutes les entités de l'industrie bancaire lorsque celles-ci dépassent les seuils rappelés par Valérie et quelques slides plus tôt. Bien entendu, on rappelle toutefois que ces seuils restent plus faibles que ceux appliqués par la CSRD et donc que la CSRD va venir élargir le seuil d'application, même en tenant compte de la surtransposition de l'État français. Nous attirons également à votre attention que des exemptions peuvent s'appliquer pour les filiales des groupes qui publient un reporting de durabilité consolidé, à la fois sous DPEF et sous CSRD. Pour la CSRD, Valérie en a parlé il y a quelques instants, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et enfin, pour les réglementations LEC 29, donc Loi Énergie-Climat et SFDR, celles-ci ne s'appliquent quant à elles que lorsque les entités analysées ont une activité de service d'investissement, comme l'indique clairement le slide. Et donc, ces réglementations, comme on peut le deviner assez facilement, vont être bien plus impactantes pour les entités du secteur de l'asset management. Et je laisse Anna vous en parler plus en détail.
Merci Zineb. Donc, peut-être pour le secteur de asset management, on peut dire qu'on a trois types d'entités et donc qui sont présentées sur cette page. Donc, on a à la fois les sociétés de gestion de portefeuille, on a des produits donc sous forme de PCVM ou d'AEF, fonds de private equity notamment, et on a les entités de participation, donc les sociétés qui sont détenues par les AEF et notamment par les fonds de private equity. Donc, je pense que l'information qui est probablement pas nouvelle pour vous, et d'ailleurs évoquée déjà par Zineb juste avant, l'article 29 ainsi que SFDR s'applique à ces trois premières catégories de manière complète, puisqu'il s'agit de services d'investissement et donc applicable à la fois aux sociétés de gestion ainsi qu'aux produits. Et la taxonomie, d'ailleurs, elle rentre dans ce dispositif, et donc je vous propose de nous concentrer sur la CSRD. Donc aujourd'hui, si on prend déjà la première catégorie qui est les sociétés de gestion de portefeuille, aujourd'hui on a globalement 700 sociétés de gestion en France, donc selon les données de l'AMF de 2021. Dans les 700 sociétés de gestion, il y a 30% qui sont détenues soit par les établissements de crédit ou les compagnies d'assurance mutuelle ou autres prestataires de services d'investissement. Donc, pour ces entités-là, ce qui est important, c'est de ce qui a été évoqué tout à l'heure par Valérie, donc l'exemption qui a été présentée, elle pourrait s'appliquer. Donc, attention aux conditions d'application de cette exemption. Et à noter toutefois que, bien que les sociétés peuvent être exempté à présenter l'information propre, donc aux bornes de leur société, ces sociétés vont contribuer au reporting groupe de manière complète et selon le même référentiel. Donc après, on peut passer rapidement sur les EPCVM et AIF en précisant que la réglementation donc CSRD ne s'appliquera pas. Donc ces véhicules-là ont été exclus de cette réglementation. Donc par ailleurs, je pense que c'est pas nouveau pour nous, pour vous. Les EPCVM et les AIF font l'objet et préparent les reportings très étendus, notamment pour les fonds article 8 et 9 conformément à la SFDR et l'article 29. Mais par contre, donc, il sort du scope de la CSRD. En ce qui concerne les entités détenues par les fonds, notamment par les AIF, les fonds de private equity, donc la question qui pourrait se poser, à laquelle je pense qu'on peut raisonnablement répondre, étant filiale pour certains, quand les fonds les détiennent de manière majoritaire, étant filiale d'un véhicule, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une exemption? Donc la réponse est non, car les fonds ne produisent pas les comptes consolidés d'une part, et les fonds ne sont pas soumis à la CSRD. Donc ces entités, ils vont suivre les règles des sociétés commerciales et vont faire leur analyse à leur niveau sans exemption possible. Donc, je pense que peut-être aussi un élément important et qui a été déjà évoqué tout à l'heure, donc ce qu'on sait déjà de la transposition attendue, c'est que les SAS devraient être dans le scope et je pense que c'est un élément important pour le groupe, à la fois, enfin, ce groupe d'acteurs, à la fois les sociétés de gestion, mais aussi les sociétés en participation, parce qu'il y a de multiples SAS dans ce secteur. Donc, a priori, on s'attend aujourd'hui, même si on n'a pas le texte définitif, à ce que les SAS soient dans le scope. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'asset management et je propose de passer la parole à Valérie pour la partie assurance.
Alors, même principe, on vous a remis selon la même structure du tableau en fonction des différentes réglementations. En fonction de la différente nature des différentes entités qui interviennent dans le secteur de l'assurance. On voit que pour sur l'article 29 et la SFRD, par contre, toutes les entités étaient concernées dès lors qu'elles ont un agrément d'assurance vie. Et on voit également qu'on avait un certain nombre d'entités qui étaient exemptées de la taxonomie pour des raisons de forme juridique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, puisqu'elle n'était applicable qu'en fonction de la directive et non pas du texte qu'il avait transposé. Et le texte qui avait transposé la DPEF avait déjà intégré un certain nombre d'entités. Ceci dit, donc là, c'est indépendamment des seuils qu'on vous a rappelé tout à l'heure. On vous a mis donc dans la dernière colonne, à droite, le champ d'application attendu de la CSRD avec encore quelques zones de prudence, puisque là encore, ça la résulte de notre compréhension des textes de la directive, mais on attend le texte de transposition pour confirmer certains points. Ce que l'on peut d'ores et déjà vous dire avec une grande certitude, c'est que, bon, bien évidemment, dès lors qu'on respecte les seuils, les sociétés anonymes sont dans le champ de la CSRD, mais y compris les sociétés d'assurance mutuelle, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Et c'est un point qui a d'ailleurs été reconfirmé par l'intervention de la Direction générale du Trésor lors de la conférence de place récente, qui a bien confirmé que les mutuelles sont bien dans le champ d'application de la CSRD. En revanche, on a encore quelques interrogations et zones d'ombre pour les entités de ce secteur qui ne sont pas des entités d'intérêt public d'assurance. Je vais revenir dans un instant sur ce point, mais pour pouvoir mieux vous expliciter en fait les enjeux de cette question, il me paraît nécessaire de revenir un instant sur cette possibilité, cette articulation d'exemption. Donc, on l'a évoqué, on a cette possibilité d'exemption et on vous a mis sur le slide suivant un exemple illustratif théorique d'un groupe européen pour illustrer nos propos. Si je résume, dans le monde de l'assurance, on a en gros trois grandes familles avec un niveau de préparation très hétérogène. On va d'abord avoir les familles des assureurs capitalistiques, ce que j'appellerais classiques, traditionnels. On va ensuite avoir une deuxième famille, la famille des conglomérats financiers avec les banques assureurs. Et on va enfin avoir un troisième groupe, les groupes mutualistes et paritaires, qui eux ont un niveau de sensibilisation et de préparation naturellement moins avancé, car ils étaient exemptés par le passé par les anciennes réglementations. Quelles vont être les conséquences pour ces trois grands types de familles? Alors, je vais commenter deux points parmi toutes les informations que vous retrouvez sur ce slide. Déjà, le cas des banques assureurs. Il est important de souligner que dès lors que la tête du sous-groupe assurance est elle-même une entité large, mais qu'en revanche, elle est cotée. Et quand on entend cotée, ça veut dire qu'elle émet des titres de capital, mais également de dette, et cotée sur un marché réglementé européen. Donc, si la tête de groupe du sous-groupe assurance d'un groupe banque assureur émet de la dette cotée sur un marché réglementé européen, elle ne pourra pas bénéficier de cette exemption et devra, à son niveau, publier un rapport de durabilité qui intègre l'ensemble des entités du secteur de l'assurance. Donc, ça, c'est pour cette première famille. Et pour la deuxième autre famille qu'on évoquait tout à l'heure, en ce qui concerne les groupes de banque assureurs. C'est un cas spécifique puisque avec l'entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 2016, on a eu beaucoup des groupes mutualistes et paritaires qui ont été restructurés avec une tête de groupe que l'on appelle souvent les SGAM, les UMG ou les SGAPS. Donc, c'est les trois formes juridiques qui ont été déclinées dans les trois codes. Et ces têtes de groupe établissent des comptes combinés et non des comptes consolidés. Quand on lit le texte de la directive, on constate que ces entités ne sont pas visées directement dans le champ d'application de la CSRD, mais quand on lit les paragraphes d'exemption des mécanismes au sein des groupes, il est clair que la notion de groupe dans le secteur de l'assurance s'entend au sens des groupes prudentiels et non des comptes consolidés comptables. Ce qui veut dire que les entités d'assurance qui sont affiliées à un groupe mutualiste et paritaire, dans les groupes prudentiels S2, seraient des filiales au sens de la directive CSRD. Donc là, on va rejoindre une question que l'on a également dans les autres secteurs, mais qui est cruciale pour ce secteur, à savoir si ces entités têtes de groupe ne seraient pas visées directement et qu'elles émettent sur base volontaire, mais pas obligatoire, un rapport de durabilité à leur niveau, en niveau consolidé, combiné, est-ce que les entités de ce groupe pourraient néanmoins bénéficier de l'exemption que l'on vous a citée et donc simplement être intégrées dans le rapport de la mise en mer? Voilà en résumé les points qui nous semblaient importants de vous souligner aujourd'hui sur le champ d'application pour ce dernier secteur de l'assurance.
Eh bien, merci pour ces éclairages et la mise en lumière des questions qui subsistent sur le champ d'application. Maintenant, il faut attendre l'avant-projet du texte de transposition pour clarifier les modalités de prise en compte des spécificités liées au marché français et puis pour apporter les réponses qui peuvent être structurantes, notamment pour les acteurs qui étaient exonérés des réglementations déjà existantes. Je comprends que la transposition n'est pas le seul texte qui est très attendu. Le secteur financier est également impatient d'avoir plus d'indications sur les spécificités sectorielles des normes ESRS. Alors, Zineb, déjà, pour commencer, est-ce qu'on a des nouvelles du calendrier de publication des normes ESRS sectorielles?
Alors, on en a déjà, enfin, tu en as d'ailleurs déjà parlé un peu ce matin, Olivier, et cette frise, je pense que maintenant les gens la connaissent. Elle était un peu plus étendue dans ce que Olivier a présenté ce matin. On l'a un petit peu rétréci pour vraiment se focaliser sur les principaux messages pour le monde financier qu'on voulait vous rappeler. Le premier message, c'est qu'on attend une guidance de l'EFRAG sur les sujets de double matérialité et de chaîne de valeur, comme rappelé à plusieurs reprises ce matin, avec des éclairages, on l'espère vraiment, sur certaines spécificités du secteur financier. Cette guidance, comme le disait Anne ce matin, est attendue pour l'été, voire le deuxième semestre 2023, et pourrait même être publiée dès juillet. Donc moi, je reste très optimiste et j'ai hâte d'avoir cette guidance. Le deuxième message est un peu moins optimiste en revanche, c'est que l'EFRAG, et comme l'annonçait Anne d'ailleurs ce matin, est en train de finaliser la constitution de son groupe de travail sur le set de normes sectorielles pour les secteurs financiers. Le groupe de travail démarre seulement ses travaux à la rentrée, donc septembre 2023, qui confirme le retard pris sur la préparation des normes sectorielles pour le monde FS et que l'on n'attend pas avant 2025 au plus tôt, et donc pas avant la date de première application des ESRS, malheureusement.
Merci Zineb. Alors tout ça rappelle un peu le processus d'entrée en vigueur des normes IFRS. On est dans un contexte où il faudra travailler ensemble, hein, préparateurs, auditeurs, régulateurs, et puis ben, on va apprendre en marchant. Alors, parlant des normes IFRS, comme évoqué lors de la première partie de ce matin, l'ISSB a publié le 26 juin, donc c'était lundi, les deux premières normes de sustainability. Alors, Anna, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les éléments spécifiques à retenir par les acteurs du secteur financier suite à cette publication ?
Merci Olivier. Donc en effet, cette publication donc, qui est intervenue il y a deux jours est très intéressante pour le secteur financier et pourrait être une source d'inspiration. Alors pourquoi une source d'inspiration? Peut-être premier point tel que je pense a été évoqué ce matin, c'est que ces normes-là ne seront pas adoptées par l'Union européenne, en tout cas, elles ne devront pas être adoptées dans la mesure où en Europe, nous avons des ESRS et ce sera le référentiel qui serait obligatoire. Et deuxième point, et qui est intéressant pour nous, les acteurs du secteur financier, c'est que les ISB ont publié en même temps que les deux normes S1 et S2 un certain nombre de guidance par métier et les guidance qui pourraient nous intéresser les acteurs de ce secteur sont le volume 15 sur l'asset management et custody activities, le volume 16 sur les banques commerciales et le volume 17 sur les métiers de l'assurance. Donc, ce qui est intéressant, je pense, à regarder dans ces documents, ce sont des indicateurs donc, qui sont requis par cette réglementation et qui peuvent donner une idée sur ce qui serait la réglementation ou en tout cas la norme sectorielle de l'EFRAG dans la mesure où il y a une sorte de convergence annoncée entre les deux normes. Alors, ce qui est certain, c'est que, et pourquoi d'ailleurs je parlais plutôt de source d'inspiration, comme ça a été évoqué déjà ce matin, les deux normes ne sont pas totalement sur le même périmètre. Donc, la norme de la CSRD, elle couvre la double matérialité, donc l'impact financier, mais aussi l'impact externe, alors que la norme produite par l'ISSB ne couvre que l'impact financier. La raison pour laquelle je pense que c'est très intéressant de lire ces normes, de regarder les indicateurs, on pourra citer quelques-uns et donc, qui sont mentionnés déjà dans ces documents-là. Donc, si je prends par exemple le secteur de asset management, l'indicateur clé sur lequel il va falloir communiquer, ce sont des actifs sous gestion, donc asset under management. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont demandés par type d'actifs, notamment sur les indicateurs de durabilité pour cet agrégat-là. Donc, pour rappel, les assets under management ne sont pas consolidés dans les sociétés de gestion, donc ils ne sont pas, en tout cas dans le scope propres des ESRS, mais vont intégrer la chaîne de valeur de manière assez certaine. Donc, si on prend par exemple le volume 16 qui porte sur les banques commerciales, en focus effet sur le risque de crédit et toutes les dimensions de durabilité sont à analyser et la manière dont elle impacte le risque de crédit. Donc, voilà quelques exemples. Donc, je vous invite vraiment à regarder, à lire ces documents-là qui sont très intéressants et inspirants, mais de ne pas les prendre en tant que référence compte tenu de la différence majeure donc, entre les deux réglementations.
Merci. Alors, la spécificité du secteur financier, c'est qu'il est à la fois préparateur et investisseur, et donc à ce titre soumis à d'autres réglementations, et notamment la réglementation SFDR. Est-ce que tu pourrais nous éclairer, Anna, sur le lien entre la réglementation SFDR et la CSRD, et quels sont les enjeux spécifiques à retenir pour le secteur financier à ce titre ?
Merci Olivier. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, un grand nombre d'acteurs du secteur financier sont soumis à la réglementation SFDR, donc Sustainable Finance Disclosure Regulation. Parmi les obligations clés de cette réglementation, on a notamment les 18 indicateurs de risque de durabilité, donc qui sont des PAI, ce qu'on appelle Principal Adverse Impact. Et donc, ces indicateurs sont à communiquer par ces acteurs qu'on a cités tout à l'heure. Donc, dans le cadre de cet exercice, les acteurs du secteur FS sont confrontés à des enjeux majeurs de la disponibilité de la data, mais aussi de la qualité de la data. Et donc, les ESRS sont une réponse évidente. Et d'ailleurs, c'était aussi l'un des objectifs tels que ça a été évoqué tout à l'heure, donc, qui permet à ces acteurs du secteur financier d'obtenir l'information standardisée, comparable et vérifiée afin de produire ces indicateurs. Donc, à noter que les normes ESRS, notamment ESRS 2, d'ailleurs, ce qu'on dit tout en bas de cette présentation, ils font une sorte de cadrage, de cross-référence entre les PAI et les ESRS. Donc, ça permet aux investisseurs de s'y retrouver de manière un peu plus immédiate. Et ce qu'on a fait sur la page suivante, c'est qu'on a listé les 14, peut-être on peut pas, si on peut passer sur la page suivante, où on va voir donc, les 14 indicateurs de la table 1, donc, qui sont obligatoires et s'appliquent à tous les secteurs. Le slide suivant, s'il vous plaît, merci. Donc voilà les 14 indicateurs donc, que vous voyez à gauche, donc les 14 PAI qui sont à produire par les investisseurs ou les financeurs et l'endroit où on peut trouver l'information dans les ESRS au titre de ces indicateurs. Donc, un point important qui a été rappelé déjà ce matin, mais qui mérite d'être souligné, une différence entre ces deux réglementations, les ESRS et donc le nouvel draft des ESRS intègre la notion de matérialité pour l'ensemble des indicateurs, y compris les PAI. Donc, ça veut dire en pratique que les sociétés vont faire leur analyse de matérialité et sur la base de cette analyse, décider si ces éléments sont matériels et si c'est le cas, ils vont les inclure dans leur reporting. En revanche, s'ils ne sont pas considérés comme matériels, ils ne seront pas inclus dans les reportings des émetteurs. De l'autre côté, les PAI et SFDR n'intègrent aucune notion de matérialité. Donc, on enlève ce filtre et on doit communiquer sur l'ensemble des indicateurs, qu'on les considère matériels ou pas, pour les émetteurs concernés. Donc, ce qui génère une différence entre les deux réglementations et un enjeu majeur pour les acteurs du secteur financier d'obtenir l'information standardisée, vérifiée et cohérente, tel que c'était l'objectif initial. Donc, les discussions sont en cours. On pense que les acteurs vont répondre à la consultation qui est en cours, notamment sur ce point-là. Donc, il reste à suivre donc, dans les prochaines semaines et jusqu'à la présentation finale de la norme. Ce qu'on peut voir aussi sur ce slide, c'est que le premier point, d'ailleurs le premier PAI qui intéresse les investisseurs et les financeurs, c'est celui de la mesure de gaz à effet de serre, notamment scope 1 et 3, de 1 jusqu'au 3. D'ailleurs, le 3 qui est un enjeu clé du secteur financier. Alors, on a déjà parlé ce matin pour l'ensemble des secteurs, mais ce sera encore plus le cas pour le secteur financier. Et peut-être, on en parlera juste tout de suite de ce point de manière un peu plus détaillée. Donc, je passe la parole à Olivier.
Oui, alors maintenant, si on parle de chaîne de valeur, c'est un enjeu qui est majeur hein, pour le secteur financier. Je pense que c'est une lapalissade de dire que le sujet est complexe, on ne sait pas trop où l'arrêter. Alors, Zineb, quelles sont les réflexions et les premiers éléments de réponse à date hein, sur ce vaste sujet ?
Alors, en effet, Olivier, c'est une évidence pour toutes les personnes qui se sont penchées sur le sujet et encore plus dans le cadre, dans l'application au secteur financier. Pour notre présent module, je vous propose de zoomer vraiment sur un sujet bien précis, comme rappelé il y a quelques secondes par Anna. Donc, un des principaux indicateurs quantitatifs qui va porter sur la chaîne de valeur, j'ai nommé les émissions de gaz à effet de serre ou parfois je parlerai d'émissions de GES, hein, c'est gaz à effet de serre, ou sinon GHG pour Greenhouse Gas de scope 3. Donc, vous connaissez déjà ce slide qui vous a été présenté par Anne un peu plus tôt ce matin. Nous pouvons donc passer directement au détail de ce que prévoit la norme sur les émissions de gaz à effet de serre, en précisant peut-être que cet indicateur va faire l'objet d'un phase-in pour la première année d'application, comme rappelé par Olivier ce matin. Et je ne sais pas pourquoi la slide sur les dispositions de la norme ne s'affiche pas très bien, elle s'affiche vide. Je vais passer rapidement et puis arriver à la slide des points clés. Donc, ce que prévoit la norme est précisément les ESRS E1-6 et les Application Requirements E1-6 également. Donc, le premier message, c'est que les objectifs de réduction des émissions doivent être présentés pour les émissions de gaz à effet de serre pour le scope 1, 2 et 3, que les objectifs de réduction de ces émissions doivent être bruts. C'est des objectifs qui ne doivent pas tenir compte des mécanismes de réduction, d'acquisition, de stockage, en fait, de moyens de réduction de ces émissions. Il est très important de fournir une compréhension des émissions de gaz à effet de serre qui se produisent dans la chaîne de valeur, notamment pour les entreprises du secteur financier. Et il s'agit d'un facteur très important des risques de transition. Et ça, pour nous, c'est un indicateur de ce que devrait couvrir donc le plan de transition sur le climat. Pour les entreprises associées, les co-entreprises, etc., donc toutes ces entreprises qui ne sont pas consolidées, mais qui font partie de la chaîne de valeur de l'entreprise, comme le rappelait Anne ce matin, il faut se poser la question du contrôle opérationnel pour évaluer si elles sont dans la chaîne de valeur et donc dans le scope 3 de l'entreprise ou s'il y a contrôle opérationnel sur celle-ci, elles seront dans le scope 1 et 2 en tant qu'activité propre de l'entreprise. Il faut définir une valeur cible de référence alignée aux accords de Paris et comparer donc les objectifs propres ou les objectifs intermédiaires de réduction des émissions dans les trois scopes respectifs. Donc là encore, ça envoie pour nous des indicateurs et des éléments sur ce que devrait couvrir le plan de transition pour le climat. Et enfin, une référence évidente à PICAF sur laquelle on reviendra dans les messages clés qu'on en tire en fait. Et donc, c'est là où on arrive sur la slide qui s'affiche à l'écran. Donc, le premier constat est clair et il a déjà été rappelé ce matin par Olivier Muller. Donc, les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 considérées matérielles doivent être présentées dans le reporting de durabilité. Ensuite, dans nos discussions avec certains de nos clients et dans nos discussions de façon générale avec vous, on comprend que vous vous êtes posé la question, que vous vous posez la question de jusqu'où aller dans le plan de transition et notamment s'il était acceptable de s'arrêter au scope 1 et 2. Malheureusement, à notre avis, il est très difficile de défendre une telle position pour, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est ce que j'indiquais quand je rappelais un petit peu les messages de la norme. Les indications de la norme semblent pointer quand même vers une inclusion du scope 3 dans le plan de transition. Et puis, le deuxième, c'est l'importance très significative du scope 3 pour l'ensemble des entités du secteur financier, point sur lequel nous allons revenir un peu plus en détail, et qui fait qu'un plan de transition limité au scope 1 et 2 va être extrêmement incomplet, ne va pas donner une information intéressante ou pertinente, et puis surtout, il ne va pas dans l'esprit ou dans le sens de la norme, et il ne répondra pas aux attentes de vos parties prenantes. Alors, bien entendu, je me permets de rappeler tout de même que la CSRD est une directive qui précise les exigences de communication et non de comportement. Et donc, si l'entité n'a pas encore intégré les émissions scope 3 dans son plan de transition, il conviendra de préciser le plan d'action permettant d'intégrer ces émissions et les jalons permettant de préciser l'horizon de cette intégration. Enfin, donc, comme je le disais avant, la norme fait référence de façon très claire pour le secteur financier à la norme de comptabilisation des émissions de GES du Partnership for Carbon Accounting Financial, donc PICAF, et en particulier à la partie A, Finance Emissions, dans sa version de décembre 2022, et la partie C, Insurance Associated Emissions, dans sa version de novembre 2022. Et donc là se pose la question, mais qu'est-ce que la norme PICAF et de quoi s'agit-il exactement? Et donc on va rentrer un petit peu dans le détail avec la slide suivante. Donc cette norme fournit un cadre, une méthodologie qui permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre des portefeuilles. Elle a été développée par le Partnership donc for Carbon Accounting Financials, donc ce qu'on on va faire référence à PICAF, hein, ce sera plus simple, comme une extension du GHG, donc Greenhouse Gas Protocol Guidance, pour la mesure des émissions de gaz à effet de serre du scope 3. Il s'agit donc d'une norme qui propose une méthodologie de calcul des émissions financées, développée par une quinzaine d'institutions financières et qui porte sur 7 catégories d'actifs qui vous sont présenté dans la slide en haut à droite. Donc, un nombre croissant d'institutions financières utilisent ou prévoient d'utiliser cette approche pour établir la base de référence de leur portefeuille et pour mesurer les progrès réalisés par rapport à leurs objectifs. À date, donc à hier, hein, j'ai regardé sur le site de PICAF, on recense 404 institutions financières qui se sont engagées à communiquer. Certaines l'ont déjà fait, hein, 134 entités l'ont déjà fait. Une française, donc bravo, sur les émissions donc de gaz à effet de serre de leur portefeuille et investissement dans le monde et dans les groupes engagés. Donc, il y a 6 grands groupes français, dont 5 groupes bancaires et un groupe dans l'assurance. Et PICAF définit également, donc, en plus de cette méthodologie, le scope, enfin le périmètre des émissions qu'on appelle scope 3 de gaz à effet de serre, qui sont sous-jacents aux activités financières. Et là, le détail est présenté dans un schéma en slide suivante. Donc, le scope 1 va correspondre aux émissions directes de gaz à effet de serre qui proviennent des installations, des véhicules de l'entreprise déclarante, c'est-à-dire les émissions qui proviennent de l'utilisation propre de l'entité pour son propre usage. Le scope 2 va correspondre aux émissions indirectes de gaz à effet de serre qui proviennent de la production d'électricité, de climatisation, de chauffage, qui sont achetées ou acquis et consommées par l'entreprise déclarante, toujours pour son propre usage. Et donc, les émissions du scope 2 vont se produire physiquement dans l'installation où cette électricité ou bien cette climatisation sont générées, à la différence des émissions du scope 1. Enfin, le scope 3 correspond à toutes les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre qui vont se produire dans la chaîne de valeur de l'entreprise déclarante. Donc, le scope 3 peut être décomposé en émissions de la chaîne aval et en émissions de la chaîne amont. Donc, en amont, on a des émissions qui vont se produire au cours du cycle de vie des matériaux, des produits, services financés, jusqu'au point de vente par le producteur ou le client d'ailleurs. Et les émissions en aval vont comprendre toutes les émissions qui vont découler de la distribution, du stockage, de l'utilisation et du traitement en fin de vie des produits ou services financés par l'entité déclarante. J'attire à votre attention que ça intègre également les déplacements professionnels, etc. Donc, comme on le rappelait un petit peu avant, PICAF, ainsi que la norme ECRS, et puis même les benchmarks et les études qu'on a pu faire également, nous permettent de dire que les émissions financées, et ce n'est pas une surprise, je pense, pour l'auditoire, que le scope 3 constitue souvent la partie la plus significative, voire vraiment extrêmement significative, de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre d'une institution financière. Et par conséquent, une attention très particulière devra être accordée à la façon dont ces émissions sont mesurées. Donc, le constat est clair et bien illustré dans la slide suivante, qui est issue en fait d'un benchmark qu'on a réalisé là-dessus. Et donc, ce qui permet en fait de voir que de mettre en évidence le caractère très significatif des émissions du scope 3 pour les institutions financières. Là, on est sur le cas, sur une analyse qui porte sur les banques. Je pense que ça s'applique très bien également aux assureurs et aux asset managers. Donc, sur la base de ce benchmark, on estime que le scope 3 représente au minimum 95 ou 96% et peut aller jusqu'à presque 100% en fait, avec plus de 99% de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour la banque. Donc, en slide suivant, on identifie vraiment le principal défi pour réussir à évaluer et à mesurer ces émissions qui sont très importantes et très significatives pour le secteur financier. Donc, le principal enjeu étant l'exhaustivité et la qualité de la donnée qu'on va directement détailler dans la slide suivante. Donc, sur la qualité de la donnée, pour mesurer ces émissions financées dans chaque catégorie d'actifs, on a besoin de plusieurs données qui sont nécessaires et indispensables pour le calcul du facteur d'attribution de l'institution financière et des émissions totales de l'emprunteur, de l'investisseur ou de l'entité investie. La collecte de ces données peut se révéler très complexe pour de nombreuses raisons. Les principales, c'est que tout d'abord, en fait, l'entité déclarante du secteur financier est très dépendante en fait, des publications des entreprises financées ou investies. Et ensuite, l'hétérogénéité dans la qualité de la donnée selon les classes d'actifs d'une part et puis selon les contreparties financées d'autre part. Donc, la qualité des données utilisées va varier en fonction d'hypothèses relatives au niveau d'assurance notamment. Donc, PICAF, en plus de la méthodologie de mesure de ces émissions, propose également une notation qui va aller de 1 à 5, le niveau 1 étant le niveau le plus fiable puisqu'on parle d'émissions auditées et le niveau 5 étant l'information la moins fiable puisqu'il s'agit de données pour lesquelles on a utilisé des proxys sectoriels. Et donc, cette notation est proposée pour classifier la qualité des données. Donc, une notation de meilleure qualité va permettre aux institutions financières de développer une stratégie beaucoup plus précise pour améliorer la qualité des données utilisées au fil du temps. On attire à votre attention que bien que cette méthodologie de notation sur cette échelle de 1 à 5 de la qualité de la donnée est une excellente pratique qu'on vous recommande, elle n'est pas requise par les normes ESRS aujourd'hui du moins. Donc son application est ainsi complémentaire à la méthodologie PICAF de mesure des émissions et permet une meilleure comparabilité des données publiées entre les intervenants du secteur financier. Cela devrait donc faciliter nos exercices de benchmark qu'on pourra vous présenter, on l'espère, lors de nos prochaines webcasts sur le secteur financier.
Merci beaucoup, Zineb. Alors, tu viens de parler de benchmark. Alors, on a quelques messages intéressants à vous présenter suite à un exercice de benchmark sur la gap analysis entre les DPEF et puis les DR requis par les ESRS. Anna, est-ce que tu peux nous relayer les messages principaux ?
Merci, Olivier. En effet, on a voulu faire cet exercice au vu de l'ampleur des enjeux pour les secteurs financiers. Ça nous paraissait intéressant de faire un petit peu un inventaire de ce qu'on a déjà. Et d'où cet exercice. Et donc, ce qu'on a fait, peut-être je vais prendre une minute pour vous expliquer. Donc, on a pris 5 acteurs du secteur financier, donc de différents sous-secteurs qui ont été mélangés. Et ce qu'on a regardé, c'est que on a regardé les informations requises dans les ESRS, donc DR par DR, DR étant Disclosure Requirement, et on est allé chercher la présence de ces informations dans les DPEF. Donc, on n'a évidemment pas vérifié la qualité de ces informations. Donc, ça, c'est un rôle des OTI. On a vérifié uniquement la présence de ces informations. Donc, deuxième peut-être point important dans cette méthodologie, c'est que des notions qui ont été évoquées tout à l'heure et qui sont nouvelles dans l'exercice des ESRS, qui sont la double matérialité et la chaîne de valeur, sont évidemment pas traités dans les DPEF, c'est normal. Donc, on est parti du principe que tout est matériel, donc on n'a pas fait de filtre, et on a pris uniquement les opérations propres, parce que la chaîne de valeur est très peu abordée par les acteurs, et elle est par ailleurs même pas définie, en tout cas de manière complète, par les acteurs. Donc, une précision importante, donc, cette analyse est faite de manière totalement anonyme, donc aucune information individuelle n'est donnée. Et deuxième point, l'analyse est faite uniquement sur la base des données publiques. Donc, ça nous paraissait important de rester sur ce scope, sur le scope de l'information publiée. Parce qu'il se peut que les sociétés, elles possèdent un certain nombre d'autres informations au sein des sociétés qui ne sont pas dans le DPEF. Donc, ils n'ont pas été analysés au titre de cet exercice-là. Donc, une dernière précision peut-être sur les schémas visuels que vous allez voir. Donc, ce que vous allez avoir en code couleur, donc si une couverture dans Disclosure Requirement, elle est considérée comme complète. Donc, complète, c'est supérieur à 90% avec toutes les réserves de méthodologie qu'on a mis tout à l'heure. Donc, on la présente en vert. Si on est sur une couverture partielle, donc entre 30 et 90%, il est présenté en orange. Et tout ce qui est en dessous de 30% est présenté en gris. Donc, je pense qu'on peut passer sur les ESRS 2. Donc, je pense que ça a été déjà largement abordé tout à l'heure dans la première session. ESRS 2 est vraiment la colonne vertébrale donc, du reporting ESRS. Donc, il n'y a aucune notion de matérialité. Tout est obligatoire. Donc, il est vraiment important de s'arrêter sur cette page et c'est quelque part vraiment un point de départ pour toute construction de reporting ESRS. Donc là, peut-être commençons par ce qui existe. Donc ce qui existe, vous le voyez en vert. Et donc pour ce qui existe, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations sur le DER, sur la gouvernance, le rôle de la gouvernance notamment, qui sont assez présentes, qui étaient d'ailleurs obligatoires dans le cadre des DPEF, donc c'est normal. Et qu'on retrouve de manière relativement complète. En revanche, ce qu'on retrouve moins, ou en tout cas de manière partielle, c'est le rôle qui joue la gouvernance, donc les différents organes de la gouvernance, sur la préparation du reporting de la durabilité. Donc ça, c'est un élément qui reste partiel. Il existe dans certains cas, mais qui reste partiel. Et un deuxième élément qui est en lien aussi avec le rôle de la gouvernance, qui a été évoqué ce matin également. Est-ce qu'il y a des aspects de durabilité qui sont inclus dans la rémunération des membres de la gouvernance? Donc ça, ces informations, on les retrouve chez certains acteurs, mais encore une fois, pas forcément de manière complète. Donc ça, c'est sûr ce qu'on a pu retrouver dans ce document. Par ailleurs, il y a aussi un autre disclosure requirement qui est couvert de manière partielle, mais en tout cas, il y a déjà un socle qui existe, qui porte sur tout ce qui est market position. Donc là, on est sur CBM 1, market position, strategy, business model, et j'allais dire value chain, non. Et donc, donc justement, c'est pour ça que ces éléments, ils sont plutôt en orange. Donc la chaîne de valeur est le principal élément manquant dans la présentation de ce DR. Et d'ailleurs, c'est assez aligné avec les conclusions, je pense, et les enjeux qu'on va évoquer tout à l'heure. Donc après, ce qui manque. Et ce qui manque, finalement, on va retomber sur tous les enjeux qui ont été évoqués à la fois ce matin et tout à l'heure. Ce qui manque vraiment, ce sont des notions de base très structurantes pour ce reporting, qui sont, et donc on les liste en bas, mais je vais les prendre plutôt dans le désordre par les lignes de bas. C'est justement cette analyse de double matérialité de la chaîne de valeur qui est documentée et qui permet d'identifier des impacts risk and opportunities que la société doit présenter. Donc ça, c'est un élément structurant déjà de base qui doit être le point de départ donc de toute préparation. Donc la double matérialité, la chaîne de valeur et les ERO, Impact, Risk and Opportunities. Aujourd'hui, c'est l'information qui est naturellement n'est pas présente dans le DPEF et qui doit être parmi les priorités les plus. C'est ce par quoi il faut commencer, hein, donc si on résume. Donc ensuite, il y a quand même une deuxième information qui n'est pas présente et qui est un socle très important, c'est l'information liée à tout ce qui est contrôle de la qualité de ce reporting, donc notamment les due diligence de l'information de la durabilité, le contrôle interne, risk management spécifique dédié à ces données-là, qui aujourd'hui n'est pas présenté dans le document. Donc voilà. Donc je pense en termes de messages clés, donc l'élément de priorisation, je pense pour tout acteur serait celui-là. Donc commencer vraiment par ces éléments-là qui sont extrêmement structurants pour la suite du reporting. Donc je pense que on peut passer sur la page suivante et d'ailleurs la page suivante. Donc, on est sur l'environnement. Donc, sur l'environnement, ce qu'on peut dire, mais je pense que les enjeux qui sont évoqués ici, peut-être on va commencer par les constats avant d'aller aux enjeux. Donc, si vous regardez les graphes, on voit qu'il y a sur ce qu'on appelle E1 Climate Change, les acteurs ont déjà produit un certain nombre d'informations assez structurées, travaillées sur les émissions de gaz à effet de serre, où on retrouve à la fois la trajectoire, l'historique et puis les objectifs. Mais par contre, et je pense que ce qui a été évoqué tout à l'heure par Zineb, on reste sur le scope propre, donc ça veut dire sur le scope 1 et 2. Et il y a très peu, voire pas d'éléments sur le scope 3 qui est présenté dans les DPEF qu'on a pu analyser. Et comme a dit tout à l'heure Zineb, ce qui est important d'avoir en tête, que le scope 3 représente environ 85% de vos émissions. Donc, il est important, c'est un élément très important aussi dans la démarche. Donc, le deuxième point qui nous paraissait important à mentionner est celui de plan de transition. Donc, on retrouve les informations sur les objectifs. Donc, disons qu'on a le point de départ. On a l'objectif qui est, pour certains cas, d'ailleurs, la majorité des cas, fixé. En revanche, la trajectoire, elle n'est pas décrite. Et donc, on n'a pas les scénarios, les métriques qui permettent de visualiser la manière dont la société va arriver à l'objectif. Donc, ça, ce sont des éléments qui restent à documenter, à structurer. Donc, parfois, c'est même à structurer et à documenter. Donc, voilà les deux messages. Et je pense que ça se relie bien finalement avec les focus qui ont été faits tout à l'heure. Donc après, un autre point sur les E2 à E5, donc qui portent sur la pollution, l'eau et ressources marines, biodiversité et économie circulaire et utilisation de ressources. Donc là, les informations sont beaucoup moins étayées hein, dans les documents, ce qui est assez normal, parce que ce sont des notions qui sont aussi assez récentes, même si la biodiversité, comme vous pouvez voir dans les graphes en dessous qui documentent l'analyse détaillée, on n'a pas pu tout mettre dans les slides, mais vous voyez voyez les petits graphes en dessous qui peuvent illustrer les différentes benchmarks. On voit que la biodiversité est plutôt en avance par rapport aux autres, mais dans l'ensemble, ce sont des notions qui restent largement à approfondir. Avant de se lancer, évidemment, dans ces exercices-là, toujours le même message, analyse de matérialité, double matérialité, identifier ce qui est important, rester sur l'essentiel à votre activité et donc traiter sur cette base-là. Donc, on peut, je pense, aller sur la page suivante qui porte sur le social. Donc, deux messages assez clairs. Et donc, je pense que le graphe, il le démontre assez bien. Tout ce qui est lié au personnel propre à l'entité, on a beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations qui répondent aux ESRS. Alors, ce n'est pas totalement complet, mais en tout cas, il y a déjà un socle qui est assez important. Et donc, ça, c'est important de le souligner. Ensuite, à contrario, tout ce qui porte sur la chaîne de valeur et qui sont illustrés par les trois DR qui sont là, donc à la fois tout ce qui est travailleurs dans la chaîne de valeur, Affected Communities et Customers and End Users, les informations restent très limitées et donc restent à compléter largement. Et donc ça va avec le message définition de la chaîne de valeur, matérialité, et ensuite pour tout ce qui est important dans la chaîne de valeur, l'information sera à compléter. Et le dernier point sur la gouvernance, en deux messages clés. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, sur la gouvernance, le message est aussi assez clair. Donc, on a un certain nombre d'informations qui sont assez complètes sur les trois disclosure requirements qu'on mentionne, notamment sur tout ce qui est culture, code of conduct, les relations d'affaires, les relations avec les fournisseurs. On retrouve les informations. Après, il y a un certain nombre d'éléments que vous voyez en gris qui portent notamment sur les incidents de corruption ou political influence and lobbying. Alors là-dessus, je pense que ce qui est important à savoir, ce qui a été dit déjà ce matin, c'est que la nouvelle mouture de la norme, elle prévoit le principe d'exclusion, donc la possibilité d'exclure les informations qui sont considérés comme classés ou sensibles. Donc après, reste à définir, et sera fait par la transposition, qu'est-ce qui est exactement considéré comme classé ou sensible, et sur cette base, réfléchir à comment est-ce qu'il est nécessaire donc, de remplir ces informations-là, et si c'est le cas, quelles sont les informations à donner. Tout en sachant que quand vous regardez les informations demandées, elles sont de deux types. Et il y a des informations sur les procédures, sur les process en place et après sur les metrics. Donc, il y a peut-être aussi des différentes dimensions, dont certaines qui pourraient être communiquées et pas d'autres. Donc, voilà. Et puis, peut-être en synthèse, page suivante. Donc, je reprends toujours le même message. Donc, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'il y a déjà un socle qui est assez robuste, en tout cas pour les acteurs d'échantillons que nous avons sélectionnés, même si on a pris les plus matures qui sont assez à l'aise avec l'exercice de la préparation de l'information extra-financière et donc préparation des DPEF. Donc, il y a un socle solide sur certains nombres d'aspects qu'on liste ici. Il y en a d'autres qui restent à travailler. Donc, tout ce qui est émissions, c'est évident, ça va être des gros chantiers à venir, on en a déjà parlé. Sur d'autres, peut-être voir, commencer par l'analyse de matérialité et la chaîne de valeur et prioriser vraiment de penser à l'essentiel et donc de bien avoir en tête que la structure ESRS2, c'est vraiment la colonne vertébrale et le socle de vos normes. Et donc, commencer par là et bien structurer et prioriser cette base-là. Donc, dernier message, même si ça a déjà été dit, donc vous aurez des outils. Alors, progressivement, donc on apprendra tous en marchant avec ces outils-là. mais on va les avoir selon le calendrier qui a été évoqué tout à l'heure. Donc on va travailler tous ensemble dans cette direction-là et avec les éléments qu'on a. Donc, en synthèse, et Olivier, je te repasse la parole.
Anna, on est un petit peu en retard, donc on va s'arrêter là, mais je vous remercie beaucoup Anna, Valérie et Zineb pour cette présentation du module spécifique au secteur financier. Je pense que c'était éclairant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il reste encore un certain nombre de zones d'incertitude et je revois également le message que l'on a évoqué tout à l'heure, important de travailler tous ensemble, préparateurs, auditeurs, régulateurs. Donc on aura encore l'occasion de se reparler. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées qui sont intéressantes et je pense qu'il faudra qu'on revienne vers vous avec les réponses à ces questions, mais on ne va malheureusement pas avoir le temps de les traiter maintenant. Pour nos internes, il y a un code ATTEND que je vous communique qui n'est pas affiché à l'écran, c'est B comme bravo 285. Voilà, je remercie tous ceux qui ont contribué et participé à l'animation, à la préparation de cette webcast, de ce module, ainsi que du module de la première partie de ce matin. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça a été utile et puis je vous souhaite une excellente journée à tous.